Moi, j'ai essayé avec vous de voir comment la découverte, au point de vue de l'intelligence humaine, de l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, apporter nécessairement au point de vue du développement de notre responsabilité quelque chose de tout à fait nouveau. Je reviens un instant, puisque c'est un problème qui est très important, je crois, celui-là, de comprendre que chaque fois que notre intelligence progresse, chaque fois que notre intelligence peut pénétrer plus avant dans la réalité humaine et l'au-delà de la réalité humaine, puisque si nous découvrons l'existence d'un être premier, nous découvrons celui qui est source de la réalité humaine. Mais celui qui est source de la réalité humaine et qui en est la cause, qui la dépasse, qui la transcende, mais qui en même temps est présent à cette réalité humaine. Le Créateur est plus présent à nous-mêmes que nous ne sommes présents à nous-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. Donc quand nous disons que Dieu est l'autre et qu'il est même tout autre, je crois que je puis le dire. Le père de Marjorie n'étant pas là, je peux le dire, parce qu'il est toujours un peu scandalisé de cette formule. Mais même s'il était là, je le dirais. Alors, le fait que Dieu est tout autre, c'est-à-dire qu'il est vraiment celui qui nous transcende totalement. Celui qui, de fait, nous est inconnaissable dans son être. Et cependant, parce qu'il est tout autre, il ne fait pas nombre avec nous. C'est ça, le lien entre la créature et le créateur. Celui qui est à côté de nous est autre que nous et fait nombre avec nous. Même s'il ne nous dérange pas, il fait nombre avec nous. Parce qu'il ne peut pas être immanent à nous-mêmes. Il est extrinsèque à nous. Il y a une extériorité. Tandis que lorsqu'il s'agit de la présence de l'être premier ne fait pas nombre avec nous. Et il ne peut pas faire nombre avec nous, autrement il ne serait pas Dieu. S'il est l'acte pur, s'il est l'être premier, s'il est le créateur, il nous donne gratuitement l'être, je ne dis pas son être, mais l'être. Il nous donne gratuitement l'être, et cet être qu'il nous donne gratuitement, il est autre que son être. L'être créé n'est pas divin. La créature n'est pas divine, bien qu'elle provienne de Dieu. Mais elle n'est pas divine. Autrement, tout être, du fait même qu'il vient de Dieu, serait divin. Alors vous auriez la vache divine, c'est bien évident. Vous auriez le singe divin. Vous auriez l'araignée divine et le crocodile. Vous auriez tous les animaux qui seraient divins, parce qu'ils proviendraient de Dieu. Or, de fait, non, ils ne sont pas divins. C'est ça le grand mystère de la création. C'est difficile pour nous de bien comprendre cette relation entre l'être premier et nous. Et c'est capital de comprendre cela. C'est quelque chose que nous pouvons saisir par notre intelligence. Et c'est très très important de saisir que l'être premier, du fait même qu'il est l'être premier, il ne fait pas nombre avec nous. Il est acte pur. Nous sommes limités. Dieu est infini. si Dieu est infini, il ne peut pas avoir de frontières. Et donc nous sommes contenus en lui. Vous savez cette parole de Tertullien qui est si belle, hein? Dieu est comme une mère en tant que créateur qui ne dépose jamais son fardeau hors de lui. Il nous porte et il nous crée et nous sommes toujours en lui. Nous sommes portés par Dieu et nous avons une autonomie de vie, nous avons une autonomie d'esprit, de liberté. Mais nous sommes autres que lui. Nous sommes totalement distincts de lui. Et cependant, il imprègne tout notre être par sa causalité de créateur. Et nous sommes donc totalement dépendants de lui. Alors c'est cela qu'il faut essayer de saisir. C'est que plus notre intelligence pénètre loin dans la réalité et que notre intelligence est capable alors de dépasser l'homme pour voir que l'homme demande d'être dépassé. Je ne peux pas m'arrêter à l'homme. Et c'est du reste très facile à comprendre, hein? Je ne peux pas m'arrêter à l'homme parce que les hommes sont multiples. Et si les hommes sont multiples et que mon intelligence cherche au-delà de la multiplicité l'unité, je ne peux pas m'arrêter à l'homme. Je dois dépasser l'homme pour retrouver la source de cette multiplicité. Le vieux problème que Plotin soulevait d'une manière si forte en disant le grand problème philosophique, comment de l'un jaillit le multiple. Comment du multiple je dois remonter à l'un. Et c'est vrai cela. L'intelligence humaine ne peut jamais rester dans la multiplicité. Elle demande de remonter de la multiplicité vers l'unité. C'est curieux cela. Ce besoin que l'intelligence a de ne pas pouvoir rester, comme disait Platon, dans la dyade, dans la dualité. Je ne peux pas rester dans la dualité. Mon intelligence est faite pour quelque chose qui est plus radical que la dualité. Redécouvrir, à partir de la multiplicité, à partir de la dualité, redécouvrir la source de cette multiplicité, la source de cette dualité, redécouvrir l'un. Et cet un, c'est le Créateur. Et nous ne faisons pas nombre avec lui. Et il ne fait pas nombre avec nous. Il n'y a pas de frontières. Alors qu'il y a des frontières à l'égard de notre voisin. C'est bien évident. Et nous le sentons très bien. Quand il prend trop de place, on lui dit, hein, prends pas trop de place quand même, laisse-moi suffisamment de place. Hein. Et on désire pousser un peu l'autre. Tandis que vis-à-vis de Dieu, jamais. Dieu ne prend jamais trop de place. Et Dieu ne m'encombre jamais. Extraordinaire. Il s'efface. Il est caché. Ça, c'est toute la délicatesse de Dieu. Hein. C'est toute la finesse de Dieu. Quand on verra Dieu, on verra comme il est fin. Et nous verrons comme nous sommes un peu des êtres un peu toujours un peu grossiers. Hein. Il y a une espèce de finesse extraordinaire de Dieu qui nous porte, qui ne cesse de nous porter, qui nous donne l'être et qui nous le donne gratuitement. Dans la mesure où l'intelligence arrive à dépasser le point de vue de l'homme pour découvrir cet être premier, nous découvrons immédiatement que nous sommes totalement dépendants de Dieu. Et c'est la reconnaissance de cette dépendance radicale à l'égard de Dieu qui fait que nous découvrons notre attitude religieuse. Il faut bien comprendre ce que veut dire cette attitude religieuse de l'homme. C'est la reconnaissance que nous sommes second, que nous ne sommes pas premiers. Mais Dieu est au-delà de l'attitude religieuse. Il ne faut pas l'oublier, du reste. C'est pour ça que la contemplation est au-delà de l'attitude religieuse. Mais ça, nous ne voyons pas ça ici maintenant. Mais c'est quand même très important de se le rappeler. L'attitude religieuse, c'est celui qui a besoin d'être relié, religaré, qui a besoin d'être relié parce qu'il est relatif. Et il accepte d'être relatif. Et il comprend qu'il est dépendant parce qu'il est limité. Et alors, il veut retourner à sa source. L'attitude religieuse est une attitude typiquement propre à la créature. Et par le fait même, elle a ses limites. Qu'elle est propre à la créature. C'est la créature qui, comme telle, reconnaît en toute vérité sa dépendance à l'égard de l'être premier. Alors, vous comprenez bien que cette activité, cette attitude religieuse, pratiquement, peut provenir de deux sources. Et ça, je crois très important à le souligner tout de suite. Je peux très bien être un être religieux uniquement en m'appuyant sur les traditions religieuses. Des quantités d'hommes sont profondément religieux uniquement en s'appuyant sur leurs traditions religieuses. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Algérie, je vous rappellerai ce petit expérience que j'ai eue et qui m'a aidé à comprendre certaines choses, c'était en Algérie. Un moment particulièrement tragique, je ne vais pas donner de détails, mais un moment particulièrement difficile. Et c'était au moment de la cueillette des olives. Et au moment de la cueillette des olives, on a ces spectacles étonnants en Algérie, dans ces pays-là. C'est qu'on voyait toutes les femmes le soir revenir avec leurs grands paniers pleins d'olives. Et quelquefois, ces femmes portaient même des troncs d'arbres. Et j'étais auprès des hommes qui, pendant ce temps-là, prenaient leur café et bavardaient. Et il y avait au milieu d'eux l'homme de la prière, et comme j'étais en dominicain, je pouvais me considérer comme l'homme de la prière, et donc j'avais le droit de parler à l'homme de la prière directement, immédiatement. Nous étions des hommes de prière, des hommes religieux. Et je lui disais, comment se fait-il ? C'était très audacieux, je sais bien, de lui poser cette question. Il faut de temps en temps avoir ces audaces. Comment se fait-il que ces femmes ont travaillé toute la journée, reviennent avec le fruit de leur labeur, ces olives, la cueillette des olives, et même quelquefois des troncs d'arbres sur leurs épaules, et que les hommes ont passé la journée à prendre leur café. Ça a été traduit, je crois que ça a été bien traduit, j'espère. Alors l'homme religieux s'est levé, il y a eu ce mot extraordinaire qui a retenti en moi, comprenez, de façon extra profonde, la tradition. Alors à ce moment-là, on comprend certaines choses. La tradition. C'était une tradition familiale, religieuse, une tradition. Eh bien, beaucoup d'hommes religieux sont religieux à cause de la tradition. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que la tradition, ça charrie des quantités de choses qui sont à la fois peut-être les choses les plus précieuses du cœur de l'homme, parce que j'aime la tradition. mais en même temps qui peuvent charrier des choses qui sont plus ou moins limpides. Vous savez, les torrents qui descendent de très haut, quand vous êtes à un niveau un peu plus bas, vous voyez que ces torrents ont des couleurs très différentes. Hein. Quelquefois, ils ont des couleurs terreuses, quelquefois, ils sont limpides. Moi, je pense toujours à la tradition quand je vois ça. La tradition, ça provient de très loin. Le verbe qui éclaire tout homme venant en ce monde. Et je crois qu'en effet, que toute tradition religieuse a quelque chose de très grand. Et que toute tradition familiale a quelque chose de très grand. Mais en même temps, ça charrie des tas de choses. Et au bout d'un certain temps, sont plus ou moins purs, limpides. La tradition ne peut pas, la tradition religieuse, ne peut pas être purifiée par la tradition religieuse. C'est impossible, je suis dedans. Quand je suis dans une tradition religieuse, je suis dans le torrent. Et ce torrent qui charrie les quantités de choses. La tradition religieuse peut être purifiée par deux points. Et ça, c'est très important pour ce que nous allons voir maintenant. Elle peut être purifiée par la foi divine. La tradition, c'est l'homme qui cherche Dieu. La tradition commence par des traditions religieuses et familiales. C'est l'homme qui cherche Dieu. Et donc, elle peut être purifiée par la foi, qui est une lumière qui vient de Dieu. Et ici, je parle évidemment de la foi chrétienne. La foi chrétienne est une foi qui implique une lumière qui vient directement de Dieu. On pourrait discuter sur les diverses fois, mais ça c'est un cours de théologie, c'est pas ici que je le fais, n'est-ce pas ? On pourrait discuter sur la variété des diverses fois. Est-ce qu'il y a diverses fois ou n'y a-t-il qu'une seule foi ? Très grand problème, très difficile. Hein ? Alors je ne veux pas le traiter ici, mais je le laisse ouvert. Et les traditions religieuses peuvent être aussi purifiées par la connaissance métaphysique, par la connaissance de sagesse acquise. L'intelligence, c'est ça, c'est merveilleux, ça. C'est un des très grands rôles de la métaphysique et de la sagesse acquise. Quand l'intelligence humaine acquiert progressivement le sens de l'être premier, qu'elle découvre l'existence de l'être premier, qu'elle découvre ce regard de sagesse acquise, hein, il ne s'agit pas de la foi ici, il s'agit d'une sagesse acquise. La sagesse acquise peut et même doit purifier les traditions religieuses. Je sais que certains ne l'acceptent pas, mais ici je vous dis ce que je crois être la vérité. Hein. Alors, il faudrait discuter longuement là-dessus. Si je vous donne simplement la conclusion, je comprends très bien que certains peuvent très bien dire oh, « non, la tradition est plus ». Que la métaphysique qui aboutit à la sagesse acquise. Je dis non. Parce que les traditions proviennent de l'homme et il y a tout un côté affectif dans les traditions religieuses et dans les traditions familiales qui ont toujours besoin d'être purifiées. Une tradition, au bout d'un certain temps, vous voyez, ça s'alourdit. C'est comme le torrent, plus il est proche de la mer, plus il est alourdi par un tas d'alluvions. Eh bien, les traditions s'alourdissent par des tas d'alluvions. Et alors, elles n'ont pas cette limpidité de la source. Et je crois que le propre, de la connaissance métaphysique, et pour moi c'est un aspect très important de la métaphysique et de la sagesse acquise. Si nous faisons de la philosophie, c'est pour purifier nos traditions religieuses. C'est pour les accepter, montrer la grandeur de ces traditions religieuses, mais aussi les purifier. Les purifier en fonction de notre regard sur ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Puisque toute la philosophie n'a pas d'autre sens que de connaître ce qu'est l'homme et de découvrir ce qu'est Dieu. Et de découvrir donc cette relation qui existe entre l'homme et Dieu. Les traditions religieuses ont toujours un poids affectif un peu obscur. Les traditions familiales, c'est toujours un peu comme ça. Allez, le gosse demande pourquoi on fait ça. Tais-toi, on a toujours fait ça. Très bien, accepté. Quand il est gosse, il accepte. Et quand il arrive à un certain âge, et qu'on lui dit... Tu dois faire ça, ce sont les grandes traditions familiales. Pourquoi je dois accepter les grandes traditions familiales? Est-ce que les traditions familiales sont plus que moi-même, dans mon autonomie personnelle? Ou les traditions familiales sont pour permettre la personne d'exister? Les traditions familiales sont pour permettre de former des personnes, et c'est pas l'inverse. Et donc, quand la personne acquiert une certaine autonomie et une certaine intelligence des choses, elle a le droit de critiquer les traditions, dans la mesure où elle découvre la vraie finalité de l'homme. Une philosophie qui découvre la vraie finalité de l'homme a le droit de critiquer les traditions familiales et religieuses. Jamais l'oublier, cela. Donc, vous voyez, il y a deux aspects par où, de fait, nous devons essayer de comprendre que l'homme peut être un homme religieux. Il est un homme religieux grâce aux traditions religieuses. Et la plupart des hommes, pour ne pas dire presque tous les hommes religieux, la plupart des hommes sont religieux grâce aux traditions religieuses. Mais ces traditions religieuses demandent une purification par la foi et une foi contemplative. Et grâce à la sagesse contemplative acquise par l'homme. Au fond, la contemplation seule peut purifier les traditions religieuses. Le regard contemplatif. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les contemplatifs. Parce qu'ils se libèrent des traditions religieuses. Ils se libèrent, comprenez bien, ils ne s'opposent pas aux traditions religieuses. Mais ils sont libres à l'égard de ces traditions religieuses. Ils peuvent en user selon le point de vue de la finalité propre de l'homme. Grâce à la contemplation, ils acquièrent ce lien profond avec ceux qui les finalisent, avec ceux qui leur donnent une autonomie plénière et totale. Et donc la contemplation, et c'est un aspect qui me semble très important de la contemplation, parce que la contemplation doit donner cette liberté intérieure. Un vrai contemplatif est libre vis-à-vis des opinions des hommes. C'est le propre du contemplatif. Quand vous voyez un homme qui est libre vis-à-vis des opinions des hommes, cherchez bien, vous verrez le contemplatif derrière. Toujours. Et il est libre même vis-à-vis des opinions religieuses. Il est libre vis-à-vis d'une certaine dévotion qui provient des traditions religieuses. Il les respecte, il sait très bien que c'est très important, mais il sait qu'il y a quelque chose de plus. Alors, cette contemplation peut être ou une contemplation mystique, qui provient de la foi, donc une contemplation infuse, ou une contemplation acquise, qui provient de la métaphysique. Alors, faisons attention, hein, ici, il faut tout de suite faire attention. J'ai bien dit, la sagesse acquise qui provient de la métaphysique, purifie les traditions religieuses, mais elle ne purifie pas la foi. La foi est au-delà de toutes mes connaissances métaphysiques. Et donc, distinguons bien ces trois aspects. C'est très très important de les distinguer. Les traditions religieuses, si vénérables qu'elles soient, le mystère de la foi et la sagesse acquise métaphysique. La sagesse acquise métaphysique purifie les traditions religieuses et respecte la foi. Ce n'est pas elle qui peut purifier la foi. La foi se purifie par elle-même. La foi se purifie par elle-même. Le don de science, le don d'intelligence sont donnés pour la purification de la foi. Il y a un don propre du Saint-Esprit, qui est le don d'intelligence, qui vient purifier notre foi de l'intérieur et qui permet à notre foi alors de se développer librement. Je crois que c'était nécessaire de rappeler ça au point de départ. Je voulais le faire la fois dernière et puis j'ai pas eu le temps. Et c'est bon. Alors voyons maintenant tout de suite les diverses activités de l'homme religieux. Alors comprenez bien que nous sommes là en présence de quelque chose de très très fondamental en nous. Nous sommes en présence d'une attitude affective, volontaire, libre, j'insiste bien. Nous ne sommes pas libres du premier amour qui est en nous, mais nous sommes libres de l'accepter ou pas l'accepter. Or, l'attitude religieuse, c'est d'accepter librement une dépendance radicale à l'égard d'un être que je considère comme mon créateur. C'est cela qu'il y a de premier dans l'attitude religieuse. C'est d'accepter librement d'être relié amoureusement. C'est une attitude amoureuse, l'attitude religieuse. Il faut bien comprendre. Habituellement, on est en contact avec une attitude religieuse qui est plus l'aspect de la dévotion. C'est second, c'est pas premier. Il faut comprendre que l'attitude religieuse est une attitude aimante, amoureuse à l'égard de celui qui est notre source, à l'égard de Dieu. C'est un amour naturel à l'égard de Dieu. Il y a un amour qui nous remet dans une situation de vérité à l'égard de Dieu. Nous reconnaissons librement, amoureusement, que nous sommes totalement dépendants de lui. Et nous reconnaissons que être dépendant de lui, c'est la seule manière de pouvoir vivre totalement notre autonomie. C'est à l'intérieur même de cette reconnaissance. Il faut être dans la vérité pour être autonome. Si je découvre que je suis entièrement dépendant du Créateur et que j'aime cette dépendance et que je la reconnais comme ce qu'il y a de plus fondamental en moi, reconnaître cette dépendance va être pour moi source d'autonomie. Mais il ne faut surtout pas opposer ce qu'on fait habituellement dans une perspective dialectique très extérieure. On oppose l'autonomie et la dépendance. Attention, il y a diverses autonomies et il y a diverses dépendances. Vous le savez bien, je vous ai déjà dit ça. Cette phrase d'un grand grec qui est Plotin et qui dit « Reconnaître la dépendance à l'égard d'une réalité qui est inférieure à nous, c'est une aliénation. Reconnaître la dépendance à l'égard d'un être qui est supérieur à nous, c'est une libération. » Et ça, je crois que c'est une de ces paroles qu'on doit essayer de comprendre d'abord, et puis essayer d'en vivre. Hein. Parce qu'au fond, c'est une parole extrêmement profonde, cela. de reconnaître affectivement la dépendance à l'égard d'un être qui est plus grand que nous. C'est constant, ça. Vous voyez, dans l'enseignement, par exemple, hein, vous reconnaissez momentanément la dépendance à l'égard d'un maître que vous considérez plus grand que vous, dans la matière où il enseigne. Eh bien, reconnaître cette dépendance à l'égard de lui, ce n'est pas du tout une aliénation, c'est la seule manière de progresser. Et donc, c'est une libération. Si au contraire, dès le point de départ, vous avez dans votre tête hein, la dialectique hegelienne qui vous dit l'opposition entre le maître et le disciple, l'opposition entre l'ouvrier et le patron, il faut s'opposer dès le point de départ. Très bien. Vous n'avancerez jamais. Et vous irez à votre propre perte. C'est bien évident. C'est ce qu'on voit tous les jours. Celui qui n'accepte pas une dépendance à l'égard d'un être qui est supérieur à lui, mais il est supérieur à lui parce qu'il est plus âgé, voulez-vous. Quand on a 20 ans, il faut bien accepter que quelqu'un qui a 40 ans, normalement, à moins d'être un imbécile, connaît un peu plus de choses que nous, quoi. Qui connaît un peu dans certaines matières, où il a travaillé ces choses-là, donc il doit normalement se soumettre à lui. Il n'y a rien de mauvais à cela. Au contraire, c'est grand. Parce que c'est vouloir grandir. C'est vouloir, à 20 ans, avoir 40 ans. C'est merveilleux, hein? C'est extraordinaire. C'est de faire qu'on va profiter de tout son acquis. On va profiter de tout son acquis le mieux possible, le plus possible, surtout s'il le donne avec intelligence. On va le recevoir pour pouvoir coopérer ensemble dans une recherche de la vérité. C'est ça l'enseignement. Dans l'enseignement, le maître et le disciple coopèrent en vue de la vérité. Et le maître doit pouvoir faire comprendre au disciple que s'il lui demande tout simplement une adhésion, c'est pas du tout pour le ligoter dans son autonomie, c'est pour lui permettre un jour d'avoir une autonomie encore beaucoup plus grande. C'est pour permettre que son intelligence se développe. Et alors à ce moment-là, accepter tout simplement notre situation de quelqu'un qui est encore jeune, comparativement à quelqu'un qui est plus âgé. Alors, reconnaître cela, mais ce n'est pas du tout se diminuer, c'est tout simplement être dans la vérité. Comment voulez-vous qu'à 18 ans, à 20 ans, on ait la même connaissance que quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, 60 ans? C'est impossible, humainement parlant, parce que l'être humain est dans un devenir. Alors qu'on choisisse ses maîtres, oh oui, alors là, choisissez, oui, choisissez avec intelligence, qu'on choisisse ses maîtres, les maîtres morts et les maîtres vivants, choisissez vos maîtres, c'est très très vrai, et c'est très bon, et c'est très utile. Là, faites... Montrez votre intelligence, montrez votre liberté. Mais une fois que vous avez choisi, adhérez à un enseignement qui nous dépasse, en attendant qu'on puisse vraiment arriver à l'assimiler pleinement, ce n'est pas du tout une aliénation, c'est au contraire une libération. Bon, je crois qu'une fois qu'on a compris ça, je prends le domaine de l'enseignement, puisque là, j'ai eu une expérience. Hein. Prenez l'autre domaine entre le patron et l'ouvrier, entre le maître, au sens très très fort, le maître forgeron et le petit forgeron, le maître cuisinier et le petit cuisinier. Ça, vous acceptez tout à fait, hein, parce que quand vous êtes en face d'un maître cuisinier qui vous fait des plats merveilleux, vous avez envie de dire, comment tu fais? Quels sont les ingrédients que tu mets? J'ai quand même envie de faire la même chose. Et alors, immédiatement, on se met à son école pour essayer de faire la même chose. Ça, on accepte tout à fait. C'est la même chose du côté de l'intelligence, c'est la même chose dans toute la vie humaine. L'être humain est un être qui progresse. Et parce qu'il progresse, il y a des conditions au progrès. Et les conditions au progrès, c'est d'accepter qu'il y ait quelqu'un devant nous, qui marche devant nous. Parce qu'il a plus d'expérience que nous, parce qu'il connaît mieux que nous. Alors nous voulons coopérer. On est en chaîne, n'est-ce pas? Et on fait quelque chose qui fait qu'on coopère ensemble. Bon, une fois qu'on a compris ça, poussez-le jusqu'au bout. Le jour où je découvre qu'il existe un être qui est absolu dans son être, dans son intelligence, dans son amour, qui est l'acte pur. Acte pur du côté de l'amour, qui n'est qu'amour, qui n'est que lumière. Quand lui, il n'y a pas de ténèbres, quand lui, il n'y a aucune erreur, et que si je suis dépendant de lui, cette dépendance s'est réalisée dans un suprême amour, s'est réalisée dans un acte de sagesse, de lumière. Et je suis capable de pouvoir coopérer avec lui. Ben, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. La plus merveilleuse qui soit. Je peux subitement me mettre à l'école de cet être qui est souverainement parfait. De cet être qui est souverainement lumineux. De cet être qui n'est que bonté, de cet être qui est perfection absolue. Je peux me relier à lui et me mettre à son école. Je peux coopérer avec lui. Je peux me mettre dans cet état de dépendance vis-à-vis de lui. Je peux le faire. Je suis libre de le faire. Alors à ce moment-là, quand je découvre ça, je comprends que la plus grande de mes activités, au point de vue humain, l'activité la plus importante, ben, c'est évidemment de me mettre dans cette relation vis-à-vis de lui. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Hein. Le vieil adage, si je fréquente le Créateur, et je peux mettre en relation vis-à-vis de lui. Si je fréquente le Créateur, à ce moment-là, mais toutes mes petites dimensions, mes petites limites, mon petit horizon, subitement éclate. Et je me mets à la dimension de celui qui est infini. Je peux faire cela. C'est cela l'activité religieuse dans ce qu'elle a de fondamental. C'est de pouvoir me relier. Alors évidemment, ce n'est pas lumineux, je suis tout à fait d'accord. Si c'était en pleine lumière, ce serait facile. Ce n'est pas lumineux, parce que je n'ai pas une connaissance immédiate de Dieu. Je n'ai pas l'évidence de Dieu. Mais je sais qu'il existe. Et je sais qu'il est l'être souverainement parfait. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il me voit. Et que je ne peux rien lui cacher de ce que je suis. Qu'il voit tout. Qu'il pénètre au plus intime de moi-même. Je peux affirmer cela au plan de ma sagesse philosophique. Je peux reconnaître cela, et si je ne le reconnais pas, je vais contre mon intelligence, parce que mon intelligence est capable d'aller jusque-là. Reconnaître que Dieu qui existe, le Créateur qui existe, il est lumière, il est amour, il est perfection, il est bonté. Et qu'en lui, il ne peut pas y avoir de mal. Et qu'en lui, il ne peut pas y avoir de haine. Qu'en lui, il ne peut pas y avoir de jalousie. Qu'en lui, il ne peut y avoir qu'une surabondance d'amour. Alors, je saisis cela. Et je comprends que je suis capable de me mettre dans son axe. de m'orienter dans son axe et de mettre directement dans sa lumière, dans son amour, me laisser pénétrer de lui. Cette attitude, c'est l'attitude fondamentale de l'âme religieuse. C'est très intelligent, vous voyez. C'est vrai, c'est très intelligent. C'est reconnaître ce qu'il y a de plus vrai. Je ne suis vrai que lorsque je suis directement relié à ma source. Et lorsque je me mets dans cette situation particulière de me relier à ma source. Vous voyez, c'est curieux. Au fond, la morale religieuse, c'est la morale de situation de Sartre. Vous voyez, Sartre laïcise la morale religieuse. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Parce qu'en réalité, c'est ça l'attitude religieuse. C'est me mettre dans la véritable situation de la petite créature à l'égard de Dieu. Et c'est bien une situation, puisque Dieu m'échappe complètement. Il me dépasse complètement. Qu'est-ce que je peux faire? C'est me mettre dans son orbite. C'est me mettre dans sa lumière. C'est me mettre dans son amour. Et reconnaître que cet amour et cette lumière m'enveloppent complètement. Et alors à ce moment-là, je reconnais librement que cette lumière m'imprègne, que cet amour est présent. Et je me remets entre ses mains. Là, je prends un langage symbolique. Je me remets entre ses mains, comme les traditions religieuses disent. C'est-à-dire, je me remets auprès de ma source. Rien n'est plus agréable que de se mettre auprès de la source de toute lumière et de tout amour. Cet acte se fait dans l'offrande même de tout moi-même. C'est ce qu'on appelle l'acte d'adoration. Le philosophe qui va jusqu'au bout de la vérité doit reconnaître que l'attitude de l'adoration, la situation de l'homme qui adore son créateur, c'est la situation la plus fondamentale dans l'ordre de la vérité de l'homme. Un homme qui adore, c'est un homme qui s'agrandit à la dimension de Dieu. C'est un homme qui reconnaît à la fois sa limite, mais qui sait qu'il est capable, parce que c'est un être spirituel, de se remettre entièrement entre les mains de Dieu. L'adoration est un acte d'amour, mais un acte d'intelligence. Il ne faut pas l'oublier. C'est un acte d'intelligence. Il faut être très intelligent pour adorer. Pour adorer vraiment, hein. Pour adorer pleinement et dans toute lucidité, il faut reconnaître qu'on est totalement dépendant d'un être suprême et que cet être suprême nous crée actuellement. Et c'est pour ça que l'adoration, c'est le retour à la source. Reconnaître que l'acte créateur de Dieu, c'est un acte qui est éternel, donc qui est actuel. Actuellement, Dieu crée mon âme spirituelle. Je peux philosophiquement l'affirmer. Actuellement, Dieu crée mon âme spirituelle. Si actuellement Dieu crée mon âme spirituelle, je me remets à ma source. Mon âme spirituelle, elle existe dans mon corps. Et donc je me remets entre ses mains. Je fais ce mouvement profond de cette conversion religieuse qui consiste à se remettre entièrement dans les mains de celui qui est le Créateur. Vous voyez, cet acte religieux, parce que c'est l'acte religieux par excellence, je crois qu'il faut comprendre que l'adoration, c'est l'acte religieux par excellence. Cet acte d'adoration, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'intelligence qui reconnaît cette dépendance et qui, au-delà de la dépendance, veut reconnaître le bienfait merveilleux du Créateur qui me crée avec amour. Et en face de cet amour du Créateur, je réponds par un amour. Et je dis que je veux l'aimer en l'adorant. Que c'est ma seule manière de pouvoir l'aimer vraiment en l'adorant. C'est-à-dire de reconnaître que tout ce qu'il y a en moi de grand provient de lui et je lui remets tout. Puisque tout vient de lui. Tout ce qui est en moi de positif, du côté de mon être, du côté de mon intelligence, du côté de ma capacité d'aimer, radicalement ça vient de lui. Qu'est-ce qui vient de moi? C'est toutes mes bêtises. Qu'est-ce qui vient de moi? C'est tous mes égoïsmes. Qu'est-ce qui vient de moi? C'est tous mes replis sur moi. C'est toutes mes petitesses. C'est toutes mes angoisses. C'est évident, c'est tous mes replis. Ça, ça vient de moi. Alors je remets entre les mains de Dieu, entre les mains de celui qui est mon Créateur. Je sais que j'emploie cette formule qui est selon les traditions, mais elle est très belle. Hein? Alors j'ai tout à fait le droit de l'accepter. Se remettre entre les mains du Créateur, ça exprime parfaitement ce que c'est. lui qui actuellement crée mon âme, et donc qui est plus que moi, cette volonté du Dieu créateur, que je peux redécouvrir par l'intelligence et l'amour. Et c'est cette volonté du Dieu créateur que je redécouvre par mon intelligence et ma volonté qui me permet de redécouvrir toute mon indépendance, de redécouvrir la grandeur de mon intelligence et de ma volonté. Je suis totalement dépendant de Dieu, mais Dieu veut que je sois autonome. L'acte d'adoration est un acte libre. Et je découvre dans cet acte d'adoration une nouvelle modalité d'adoration, une nouvelle modalité de liberté. Il y a la liberté de l'artiste, il y a la liberté de l'ami, et il y a la liberté de celui qui adore. Et c'est une nouvelle liberté. Et je dirais que c'est la plus grande des libertés. Puisque plus j'aime, et plus la liberté naît de l'amour, plus la liberté est grande. Or, dans l'acte d'adoration, je me remets à celui qui est mon créateur, je lui remets tout ce que je suis. Je me remets entre ses mains. Et je sais que je coopère avec lui. Je suis dépendant totalement de lui, mais puisqu'il veut que je sois libre et que je sois capable d'aimer et capable de connaître, je sais que par là, je redécouvre comme une nouvelle jeunesse. Rien ne nous rajeunit plus que l'adoration. Le jour où on comprendra ça, ça ira mieux. Rien ne nous rajeunit plus que l'adoration. C'est extraordinaire, tu vois. Et c'est normal, si vous essayez de comprendre un tout petit peu, qu'est-ce que c'est que se rajeunir, c'est revenir à sa source. C'est la seule manière de se rajeunir. Hein. On ne se rajeunit pas biologiquement, en soi, c'est évident, mais on se rajeunit intérieurement. On se rajeunit spirituellement. Il n'y a rien qui nous rajeunit plus que l'adoration. Parce que nous retrouvons notre source première, notre vraie source, se mettre entre les mains de celui qui est notre Père, celui qui est notre Créateur, nous remettre entre ses mains et pouvoir rester à l'unisson de Dieu, cette respiration profonde de l'âme. Je crois que l'adoration, c'est la respiration profonde de l'âme, par où nous découvrons notre autonomie. Nous découvrons à ce moment-là, vous voyez, que nous sommes créés directement par Dieu et que nous avons une ressemblance plus profonde à l'égard de Dieu qu'à l'égard de nos propres parents. Ça, c'est très libérant. C'est la plus grande des libérations. La plus grande libération, c'est de considérer que la ressemblance qu'il peut y avoir au niveau de l'atavisme, hein, à l'égard des parents, des grands-parents, des grands-oncles, hein, et puis surtout quand l'atavisme n'est pas fameux, n'est-ce pas, on ressemble à un grand-oncle, on n'a pas osé en parler, puis de temps en temps on dit tiens, oui, oui, c'est celui-là dont on se ressemble. Tous, hein, chacun d'entre nous, nous ressemblons à un brigand. C'est bien évident, parce qu'il y a toujours dans notre atavisme des pirates et des brigands. Ça ne peut pas être autrement, c'est impossible. Donc, il y a des traces. Eh bien, par l'adoration, vous découvrez que vous êtes complètement libre de tout le conditionnement. C'est l'acte qui vous libère le plus de conditionnement. Vous voyez, le psychologue ne peut rien dire sur l'adoration. Parce qu'il reste au niveau du conditionnement. Alors, vous redécouvrez votre source. Et vous vous mettez tout proche de cette source. Et vous ouvrez tout grand votre cœur pour que cette source vous donne tout. Sainte Catherine de Sienne dit, quand on va à la source, vous avez bien, le vase est toujours plein, mais si on va avec un tout petit vase, on ne reçoit pas beaucoup, mais si on va avec un très grand vase, il est complètement rempli. Et l'adoration, dans la mesure même où elle est un véritable acte d'adoration, ouvre totalement notre âme à la source de notre être, de notre lumière, de notre amour. C'est très très grand l'adoration. Et nous pouvons tous réaliser cet acte d'adoration quand nous le voulons. Là, nous dépassons le temps, nous dépassons notre conditionnement, nous sommes reliés à l'acte libre du Créateur sur nous. Et nous sommes directement reliés à cet acte créateur de Dieu. et nous coopérons à cet acte créateur. Nous comprenons que si Dieu nous a créés comme des êtres libres, comme des êtres spirituels, comme des êtres capables d'aimer, Dieu veut qu'il y ait entre lui et nous un lien d'amour. Dans l'obscurité, c'est bien évident, dans l'obscurité, mais un lien d'amour. Nous sommes capables, par l'adoration, de rechercher une manière de coopérer avec Dieu. C'est pour ça que l'adoration conduit à cette attitude fondamentale de l'abandon. Mais l'abandon divin, comprenons bien, l'abandon religieux, ce n'est pas du tout l'abandon psychologique. Hein. L'abandon psychologique, vous savez très bien ce que c'est. Hein. C'est celui qui manque de vertèbres. Alors il prend la forme de la cuillère dans laquelle il se trouve. Hein. Alors on voit très très bien ce que c'est que l'abandon psychologique. Hein. L'abandon psychologique n'est pas une qualité. C'est très bien un gosse qui est abandonné, mais du reste, il ne l'est pas tellement. Un vrai gosse qui vient n'est pas très abandonné. Dès qu'on veut le saisir un tout petit peu, il se met à ruer dans tous les sens. Et quand on grandit, être abandonné psychologiquement, ce n'est pas une qualité. Mais l'abandon religieux consiste à savoir qu'il y a une présence en nous, plus forte que tous, qui est cette présence de Dieu. On vit dans la lumière de Dieu. On vit dans son amour. On est enveloppé de cet amour. On est porté par cet amour. Et Dieu nous devance toujours. Et c'est pour ça qu'on peut s'abandonner. Il nous devance toujours. C'est le grand mystère de la providence. Et la providence, hein, c'est un mystère que le philosophe peut découvrir. Si Dieu nous a créés comme des esprits, nécessairement Dieu s'intéresse à nous. Et donc il y a une providence. L'adoration, l'abandon, la louange, la reconnaissance. Voilà les grandes activités de l'homme religieux. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voulais seulement aujourd'hui montrer ce moment particulièrement important par où nous coopérons très profondément avec celui qui est notre Créateur. Une coopération libre, hein? Pas d'acte d'adoration sans liberté. Tandis que les traditions religieuses, quand elles sont acceptées bêtement, elles s'imposent à nous. Jamais Dieu ne s'impose de cette manière, parce qu'il ne serait pas Dieu. C'est Dieu qui respecte le plus notre liberté. Et le jour où on a compris cela, alors on accepte l'attitude de l'adoration. C'est Dieu qui est le plus grand défenseur de notre liberté. Mais farouchement, parce qu'il veut que nous soyons libres, parce qu'il veut notre dignité profonde d'esprit. Et l'adoration va permettre à notre âme profonde, à ce qu'il y a de plus intime en nous, de découvrir combien Dieu veut cette liberté et combien Dieu est le défenseur de cette liberté.